France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 31 octobre. Soyez les bienvenus sur France Musique. Davy Travailleur est à la réalisation. Tar, Bouclifa, Adelino Mello et Dali Ya à la technique. Une période bien particulière que nous traversons, difficile certainement, mais dans laquelle France Musique vous accompagne. Et parlons d'actualité. Après-demain, soit le lundi 2 novembre, l'ensemble des chaînes de Radio France organisera une journée de solidarité avec l'éducation nationale. Et ce matin, nous en parlons déjà. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous racontera comment la pratique musicale s'est inscrite dans l'enseignement général. À 8h15, notre reportage avec Marie Jiquel qui évoquera l'engagement d'un professeur de musique avec son projet Nos Jours de Gloire. 8h30, notre invitée, ce sera Sophie Janin, directrice musicale de la maîtrise de Radio France. Nous parlerons d'éducation musicale, bien sûr, de mixité, de répertoire. Et puis à 8h50, Christophe Chassol fera lui un petit clin d'œil aux élections américaines à venir. Il nous racontera la vie du batteur de jazz, Tony Williams. L'orchestre symphonique de San Francisco, Michael Tinson, Thomas à la direction, ou Down, un extrait de Rodeo de Ron Copeland, ou les grands espaces américains sur France Musique, de quoi s'évader ce matin. Et sachez d'ailleurs que nous consacrerons une grande partie de la programmation des jours à venir à la musique d'outre-Atlantique à l'occasion de l'élection présidentielle américaine, notamment demain dans les émissions 42e rue et le carrefour de la création, ainsi qu'une journée et une nuit 100% USA, ce sera les 3 et 4 novembre. octobre prochain. Restez donc bien branchés sur France Musique. Alors la semaine dernière, je vous faisais entendre un court extrait de ce nouveau disque Aranjuez, un nouvel album du guitariste Thibaut Garcia. En voici un plus long ce matin avec le magnifique mouvement central du Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, œuvre de 1939, une évocation des jours heureux de la lune de miel du compositeur espagnol.
Thank you.
Et ce monde a bien besoin de musique, vous ne me contredirez pas, je pense, ce matin sur France Musique. Ici, on écoutait le guitariste Thibaut Garcia, accompagné par l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Ben Glasberg, dans ce magnifique adagio. Deuxième mouvement, mouvement central du concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo, retrouvé donc sur ce nouveau disque paru chez Warner Classics. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Bertrand Chamaillou.
Oui, je suis là.
Je suis là, voilà, je ne vous entendais pas bien. Comment allez-vous?
Oui, voilà. Très, très bien, et vous?
Mais très bien, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin sur France Musique pour partager un choix musical, mais aussi pour prendre de vos nouvelles. Allez, passons peut-être, allez vite fait, par les mauvaises nouvelles. Comment avez-vous accueilli cette annonce de reconfinement?
Oh ben, pas formidablement bien, mais enfin bon, écoutez, moi je suis d'un naturel optimiste, donc je vais essayer de le rester, mais évidemment, ça fait pas très plaisir, et puis bon, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais c'est un petit peu l'absence de vision culturelle qui nous chagrine un petit peu aussi.
Pensez-vous voilà, qu'il y a des choses qui vont changer par rapport au confinement du printemps, j'entends par rapport aux artistes, pour les artistes?
Mais alors, je sais que pour l'instant, c'est un tout petit peu moins radical d'après ce que je sais, qu'on a la possibilité quand même d'organiser des événements captés, comme on a essayé de le faire depuis le mois de juin. Bon, même si là, on avait une progression sensible au niveau du public, bon là, on repart un peu en arrière, mais enfin, on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir répéter, enregistrer, ça apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je me trompe peut-être. Donc ça, c'est déjà un peu plus positif, mais bon, après, il y aurait quand même à débattre, à mon avis, sur la question. Donc on va voir si, effectivement, attendons de voir déjà ce qui se passe, et puis si les choses s'installent, si un débat peut s'installer.
Effectivement, c'est un sujet à suivre, bien évidemment. Vous avez, cela dit, un projet d'enregistrement à venir, Bertrand Chamaillou?
Alors moi, j'ai enregistré juste la semaine dernière en Italie. J'ai fini d'enregistrer au moment où ils ont annoncé qu'on allait fermer avec effet immédiat tous les théâtres en Italie. Voilà. Après, j'ai quelques autres projets d'enregistrement à venir, mais un petit peu plus tard. Moi, j'ai eu de la chance depuis le mois de juin. J'ai pu beaucoup jouer. Enfin, je fais partie des chanceux. Mais enfin, je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Et je pense que comme pour beaucoup de gens, c'est quand même un sacré coup de massue là. Alors bon, il y a des raisons à ça. Il faut essayer de réagir d'une manière de ne pas penser qu'à soi. Mais enfin, c'est vrai que là, pour la question de la culture, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire parce que c'est évidemment ce qui peut apporter quand même aussi un peu d'élévation dans des périodes aussi sinistres. Et il y aurait quand même une vraie réflexion à avoir par rapport à ça, je crois.
Effectivement, l'art est essentiel. Bertrand Chamaillou, allez, on va parler de choses positives aussi, avec un disque paru il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines à peine, en partenariat avec France Musique, Good Night, 16 berceuses d'une grande diversité en termes de répertoire. Hein. On se balade entre Villa-Lobos, Grieg, Brahms, Melbonis aussi. Comment est né justement ce programme-là? À quel moment l'avez-vous enregistré justement? Y a-t-il un lien avec la période que nous traversons?
Ben non, c'est-à-dire qu'il y en a maintenant, et carrément, j'ai lu des gens qui disaient que c'était un coup monté pour le confinement, mais absolument pas. Moi, c'est un projet que j'ai depuis d'ailleurs longtemps, depuis plusieurs années, et que je n'osais pas trop faire parce que je voulais aussi... faire des grandes choses avant, des monographies, des choses un peu plus monolithiques, des grands cycles, des grands compositeurs, etc. Et voilà, et là, avant notamment un grand projet solo que j'ai l'année prochaine, je voulais m'octroyer une petite parenthèse, et j'ai ressorti des tiroirs cette idée de faire un projet tout autour des berceuses, et là, il s'est trouvé effectivement que j'ai enregistré en février, juste avant le confinement. Et je veux dire, ça va même très loin parce que j'ai enregistré avec mon propre piano. Et je l'ai envoyé pour des révisions à l'atelier après. Et donc, du coup, je n'avais plus mon piano pendant le confinement.
C'est pas vrai.
Je l'avais sorti pour cet enregistrement. Voilà. Là, pour le deuxième confinement, j'ai mon piano. Donc,
on vous le souhaite, effectivement, pour continuer à nous proposer de beaux projets. Ce disque, on en parle comme, et c'est le cas, d'un voyage apaisant dont nous avons bien besoin en cette période. D'ailleurs, votre choix musical, Bertrand Chamaillou, est d'une beauté incroyable.
En fait, là, je suis actuellement en train de me pencher sur plein de choses parce que je travaille, et le premier confinement et le deuxième d'ailleurs va me donner l'occasion aussi de travailler sur un projet de festival Maurice Ravel sur la Côte Basque, qui est la région de France qui m'est chère, et donc je me penche sur beaucoup de choses, et notamment sur un compositeur très méconnu qui est Maurice Delage, qui était un proche de Maurice Ravel, et j'ai découvert plein de choses extraordinaires. Et notamment ces poèmes hindous, alors qui ont été merveilleusement enregistrés il y a environ 2 ans ou 3 ans, enfin quelque chose comme ça, dans un disque qui s'appelle Mirage de Sabine Deviel et des siècles dirigés par François-Xavier Rost, qui sont, c'est pas très original, mais ce sont des artistes que j'adore, voilà. et en plus, donc, c'est une musique vraiment méconnue et qui est absolument sublime de raffinement, original, je veux dire, orientaliste sans être kitsch, sans être cliché. C'est très très raffiné, c'est le raffinement même instrumental de certaines musiques de Ravel, je trouve aussi. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup écouté ce disque Mirage, comme d'autres disent d'ailleurs de Sabine Deviel, pendant le confinement. Mais là j'étais ces jours-ci en train de me repencher dessus, aussi en rapport avec toute la recherche que je fais autour de Ravel et de ses amis. Et voilà, je trouve que c'est une musique absolument délicieuse que je suis ravi de partager aujourd'hui.
Merci beaucoup Bertrand Chamaillou pour ce partage. On écoute tout de suite et donnez-nous des nouvelles. On vous souhaite bon courage pour cette période et puis à très bientôt sur France Musique.
À très bientôt, merci.
Je l'enverrai à l'ombre.
Lahore, l'un des quatre poèmes hindous de Maurice Delage, interprété par la fabuleuse Sabine Devielle, accompagnée par Les Siècles et François-Xavier Roth. C'était le choix musical de Bertrand Chamaillou pour nous ce matin. Et on s'intéresse également à une autre chanteuse sur France Musique, à la mezzo-soprano Adèle Charvet, marraine du pass moins de 28 ans à Radio France pour cette saison. Alors certes, les concerts sont pour le moment suspendus, mais il arrivera un temps où l'activité redémarrera et les artistes auront plus que jamais besoin de vous pour venir les écouter dans les salles. Adèle Charvet qui avait participé cet été à notre grand festival France Musique, lancé pour soutenir les jeunes musiciens lors des vidéos, des podcasts de ces 150 artistes ayant participé à cette opération extraordinaire sont à retrouver sur notre site francemusique.fr. Et puis, je vous offre ce matin le dernier disque d'Adèle Charvet, Long Time Ago, paru chez Erato, dont on écoute tout de suite un extrait. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous envoyez vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse postale, et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Rendez-vous sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. What had drowned a lover once sounds like an old song. The murder is stricken dumb, a throne and match's way. We three make up a sonnet's own. For none alive today, the rarest stories that we know are sad. The Secrets of the Old. Samuel Barber ici, interprété par Adèle Charvet et Suzanne Manoff au piano. Un extrait de ce disque a remporté ce matin sur francemusique.fr. Disque paru chez Alpha.
Du 1er au 8 novembre, France Musique se met à l'heure américaine. Plein feu sur la culture musicale des États-Unis durant toute une semaine. Grand chef, compositeur à l'honneur, à la découverte du dernier prodige Nico Meli. Broadway et son répertoire actuel, la vision de l'Amérique par le romancier Alain Mabankou. À ne pas manquer, une journée 100% US, mardi 3 novembre, suivie d'une nuit américaine de concerts prestigieux. Toutes les infos sur francemusique.fr. France Musique, partenaire d'Opéra Magazine. À la une du numéro de novembre, Anya Silia. Égérie du Bayreuth de Wieland Wagner, la légendaire soprano a soufflé ses 80 bougies au printemps dernier. Après une magnifique carrière, elle vient de participer à une production de Pierrot Lunaire au Staatsoper de Hambourg. À retrouver dans Samedi à l'Opéra de Judith Chen, le samedi à 20h sur France Musique, l'Opéra comme si vous y étiez.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et ce matin, pour mon plus grand plaisir, nous sommes de retour à l'école.
Eh oui, le lieu le plus important de la République. Et pour illustrer la vivacité des pratiques musicales, vocales et chorales à l'école, découvrons un rap maison par une classe de CP, ça déménage, à l'école Jules Ferry à Sallanches en Haute-Savoie.
Si tu sais pas faire ça, et va dans la vie, toi t'es mort.
Oh, c'est adorable, ça signe comme ça dans chaque école de la République, Marc-Olivier.
Écoutez, je n'ai pas allé dans toutes, mais je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits avec des tas de réalisations extraordinairement enthousiasmantes.
Et grâce à qui ?
Grâce à Jules Ferry, bien sûr, qui en 1882 inscrit dans les programmes de l'école primaire l'heure de musique.
Et pour les ados ?
Les ados, au collège, il y a des cours de musique qui sont pris en charge par les professeurs d'éducation musicale et de chant choral, qui ont pour mission de donner une véritable culture musicale à leurs élèves, et ce sont également eux qui animent les chorales de leur établissement. Partons en Alsace, dans le collège Ottfried, avec des très belles choses.
On entend davantage de voix de filles que de garçons.
Ben oui, parce que la mue des garçons est un passage difficile. À ce moment de la croissance, nous les garçons contrôlons plus grand-chose vocalement. Ils sortent des sons totalement improbables de notre gosier, qui sont plus proches de certains mugissements et ânements. Moi, j'ai fait beaucoup de yodel, par exemple, en montant. On est inhibé, bref, c'est l'horreur de chanter à cette période pour les garçons. Et ça demande vraiment un soin extraordinaire du chef de chœur pour permettre une pratique chorale sans souffrance. Mais c'est très important justement de prendre grand soin de cette période, parce qu'on peut ou s'abîmer la voix ou bien dégoûter complètement le garçon de la pratique vocale et chorale. Et au lycée, la musique existe aussi, mais cette fois-là sous forme d'option. J'ai personnellement un grand regret, c'est que les disciplines artistiques soient trop peu présentes dans les lycées professionnels.
Et malgré ce regret, Marc-Olivier, un diagnostic plutôt positif.
Oui, parce qu'il y a un nombre considérable de beaux projets musicaux dans l'éducation nationale. Et pour formuler un vœu, je dirais que l'enjeu de ces prochaines années est le développement de la formation vocale et chorale des enseignants, tous degrés confondus. Encore un autre exemple, le 21 juin 2020, les professeurs de l'Académie de Lille chantent Barbara en Zoom, ce qui est une autre forme d'exploit.
Marc-Olivier, pour cette chronique, on réécoute sur francemusique.fr, on podcast. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Avec joie, Saskia.
Bonne semaine à vous. Thank you. Le deuxième mouvement de ce très beau concerto pour piano, premier concerto pour piano de Tchaïkovski avec cette grande pianiste italienne, Beatrice Rana, accompagnée par l'orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile, Antonio Papano à la direction. Juste avant de retrouver Marie Jiquel pour notre reportage du jour, un petit arrangement de Manuel Doutrelon et Thierry Esquèche, La foule d'Édith Piaf, revisité par Romain Leleu à la trompette et Thierry Esquèche lui-même au piano. La foule d'Édith Piaf dans cet arrangement pour trompette et piano interprété par Romain Leleu et Thierry Esquèche. Et c'est l'heure de notre reportage comme promis. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia.
Vous nous présentez ce matin un enseignant engagé. Il s'appelle Sébastien Boudria, compositeur et professeur de musique dans plusieurs conservatoires de la banlieue parisienne. Dans quelques jours sort son premier projet intitulé « Nos jours de gloire » qui résonne particulièrement avec l'actualité bouleversante de ces dernières semaines.
Mais oui, j'ai rencontré ce passionné d'histoire chez lui. Il possède des dizaines de biographies, des rois de France aux philosophes des Lumières. Et il y a quelques années, entre son piano et sa bibliothèque, il décide de mettre en musique ses textes qui reflètent les valeurs de la République française. Et puis il a demandé à une vingtaine de personnalités de les lire.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés sont français. Ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme.
Le chanteur Oxmo Puccino, qui, vous l'avez peut-être reconnu, Saskia, il lit la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès sur une musique donc de Sébastien Boudria.
ce qu'on appelle les élites, ne savent pas promouvoir la République. Et je crois au contraire que, en tout cas, les discussions que j'ai pu échanger avec d'autres élèves, la République, c'est juste leur expliquer concrètement ce que c'est, en quoi ça intervient dans leur quotidien, et là, ça leur parle. Et quand vous prenez les textes que j'ai choisis, quand vous prenez le texte sur la misère de Hugo, allez demander à tous les gens qui font la queue à la soupe populaire au Resto du Cœur si ça ne leur parle pas. Les gens et les jeunes sont très conscients quand on leur explique concrètement ce qu'est la République et ils s'y intéressent parce qu'on leur parle d'eux.
Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère.
Michel Aumont, ici interprétant le texte « La misère » de Victor Hugo. Alors, Sébastien Boudria a lancé ce projet seul, après avoir monté plusieurs spectacles au sein de son conservatoire. Il a attendu ses artistes à la fin de leur représentation pour les convaincre de participer à cet album. Et ils ont tous été séduits, Marie.
Et oui, Michel Bouquet, Denis Podalydès, Jane Birkin, pour ne citer que. Il a dû se débrouiller seul après avoir contacté le ministère de la Culture en vain. Un écart, un silence entre le haut et le bas qu'il observe aussi dans son travail d'enseignant au conservatoire.
Il y a un gouffre abyssal entre le terrain et la haute hiérarchie, les ministères, les choses comme ça. Il y a une vraie déconnexion et on voit bien que parfois, si moyens il y a, ils sont pas du tout pertinents avec les besoins ou la réalité du terrain. Donc parfois ils servent à rien. Et je me rends compte absolument que l'enseignement en France, que ce soit dans les enseignements artistiques ou l'enseignement dans l'éducation nationale, tient encore un petit peu parce qu'il tient sur les bras de ces instituteurs-là. Il tient pas. Enfin, vous voyez, ça vient d'en bas, ça vient du terrain. Ça, je le sens vraiment très fortement.
Très choqué par l'assassinat de Samuel Paty, ce pianiste issu de banlieue se souvient de ses professeurs qui lui ont tendu la main, qui l'ont poussé à faire de sa passion sa profession. Il veut honorer lui aussi cette mission.
Le conservatoire de musique s'est beaucoup dépoussiéré dans son ensemble. On n'est plus dans les années 80 où c'était comme très élitiste. En plus, moi, j'ai la chance d'enseigner. Ça a été vraiment un choix en banlieue parisienne, dans des quartiers assez populaires, Colombes et Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Et donc oui, bien sûr, il y a une vraie mixité sociale. Le conservatoire s'ouvre. On va beaucoup dans les quartiers. On va à la rencontre des élèves qui n'ont pas accès à cette culture-là. On s'ouvre nous aussi sur des musiques. Vous voyez, on fait plus que de la musique classique, on s'ouvre aussi aux musiques actuelles. Moi, en tout cas, sur le terrain, j'ai vraiment cette conscience, et je vois, j'ai les élèves qui nous le rendent bien, on a cette conscience du rôle qu'on a et de cette ouverture à la culture qui est fondamentale. C'est aussi important que d'apprendre à lire ou à écrire.
Sébastien Boudria, votre micro, Marie, donc, Nos jours de gloire, qui sort vendredi prochain, le 6 novembre. Merci beaucoup pour ce reportage. Marie, à très bientôt sur France Musique et bonne journée.
Merci, à vous aussi.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et un petit clin d'œil en ce 31 octobre à Halloween, bien sûr. Marie, vous le fêtez ce soir, j'imagine.
Oh bah tout à fait.
Dans votre canapé. On va écouter l'ouverture de Der Vampire, Heinrich August Marschner. On écoute l'orchestre de la radio de Cologne et Helmut Froschauer à la direction. L'ouverture de Der Vampir d'Heinrich August Marschner, l'orchestre de la radio de Cologne et Helmut Froschauer à la direction. Un petit mot sur le programme de ce soir sur France Musique à 20h. Exceptionnellement, eh bien, cette diffusion d'un concert Unisson donné le 17 octobre dernier, organisé par l'association Unisson, un concert solidaire à l'Opéra Comique de Paris en soutien aux artistes lyriques durement touchés par la crise sanitaire. On en avait parlé ici même, hein, dans cette matinale avec le ténor Stanislas de Barbera qui était venu nous en parler. Plus de 60 artistes se sont réunis bénévolement pour cette soirée mémorable, au programme Mozart et Bernstein, de la création contemporaine aussi. Il y a aussi Camille Saint-Saëns, Offenbach, Vaughan Williams, avec des chanteurs tels Alix Lesault, Stanislas de Barbérac donc, Philippe Jaroussky, Chloé Brio, Clémentine Margan, ils sont énormément. C'est un très beau concert, j'ai eu la chance d'y assister, donc je ne peux que vous le recommander. Un concert fabuleux, qui fait du bien, qui réchauffe en cette période. Je vous propose bien d'en écouter un petit avant-goût. Marie Perbos, Philippe Jaroussky en duo, El Desdichado, Camille Saint-Saëns.
Ah, il rompt dans le flot.
Un aperçu de ce concert unisson qui vous attend ce soir sur France Musique à 20h, présenté par Judith Chen, Marie-Pierre Bost, Philippe Jarouski, ici en duo pour cette ère El Desdichado de Camille Saint-Saëns. Rendez-vous dès 20h ce soir sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et nous sommes encore sous le coup de l'émotion après l'attentat terroriste islamiste qui a coûté la vie le 16 octobre dernier à Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine, qui avait montré des caricatures de Mahomet dans un cours consacré à la liberté d'expression. L'ensemble des chaînes de Radio France a donc décidé d'organiser lundi prochain, lundi 2 novembre, une journée de solidarité avec l'éducation nationale. Et nous évoquons ce sujet en amont ce matin avec Sophie Janin, directrice musicale de la maîtrise de Radio France. France, professeur, donc bonjour Sophie.
Bonjour Saskia.
Tout d'abord, comment avez-vous personnellement réagi à ce drame? Quel est peut-être votre sentiment aujourd'hui?
Je pense que je suis sous le choc, comme tout le monde. Et aussi, quand on pense à ce lieu qui est l'école, qui est le collège, qui est le lycée, et le rôle si vital et important pour notre civilisation qu'ont les enseignants, je suis bien naturellement sous le choc.
Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec les maîtrisiens, peut-être lors de répétitions?
Alors, c'était à la veille des vacances, ce qui fait que les maîtrisiens partaient, mais il en était question à un moment qu'on rende hommage à Samuel Paty. Donc on était quand même en contact pour voir si finalement on faisait quelque chose ou pas, si la famille, si jamais elle le souhaitait. Et donc on a eu quelques échanges comme ça avec les élèves, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à accompagner et travailler, parce que les jeunes sont je pense aussi secoués que nous, si ce n'est pas plus.
L'école de la République est-elle en danger? Cette question a occupé les débats, elle était sur toutes les lèvres ces derniers jours. Mais qu'en est-il de l'éducation de la musique? Et c'est à ça qu'on va s'intéresser ce matin avec vous, Sophie Janin. Sommes-nous confrontés dans l'éducation à la musique aux mêmes problématiques?
Je pense que ça fait un moment qu'on se pose la question sur la présence de la spiritualité dans l'enseignement musical. Il est vrai que dans l'enseignement de la musique classique vocale, on est en contact avec l'histoire de l'art à un moment où l'Église avait un fort impact sur les créations musicales. Donc il est vrai qu'il y a un répertoire sacré qui est abordé par moment aussi par notre formation, même si elle est laïque. On touche quand même à des œuvres sacrées de temps en temps, que ça soit d'ailleurs chrétienne ou autre. Et cela sous l'angle de l'histoire de l'art. Et c'est notre rôle, je pense, d'essayer d'avoir une approche le plus philosophique et intellectuelle possible là-dedans.
Et effectivement, on en parle ce matin, cela fait 15 ans, Sophie, que vous enseignez la musique auprès des enfants. Vous avez senti une évolution, des changements dans les mentalités à ce sujet-là, au niveau du répertoire, justement?
Je sens un changement dans la prudence et la peur aussi chez les adultes, qui sont souvent du côté des enseignants, hein, pas seulement des parents, mais comment on peut continuer à faire vivre ce répertoire. Après, s'il y a un changement chez les enfants, il faut dire aussi que je n'ai peut-être pas une vision adaptée, parce que nous avons évolué dans notre rayonnement. Et quand on s'est installé à Bondy en 2007, c'était sur des candidatures spontanées. Et on est passé de ça à auditionner tous les enfants de CP, et on est passé de ça à aujourd'hui et rayonner et intervenir dans toutes les écoles du Bondy Nord en CP et en CE1. Donc finalement, comme notre rayonnement s'élargit, je peux pas voir si finalement il y a un changement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est sur la prudence et on accompagne toujours avec, on espère, la plus grande délicatesse pour pourquoi, de temps en temps, une œuvre sacrée est abordée.
Effectivement, la maîtrise de Radio France est répartie sur deux sites, hein, l'un ici à Paris, l'autre à Bondy, où vous le disiez, hein, depuis plus de 10 ans, des enfants venus d'autres milieux, d'autres cultures peuvent découvrir la musique, la pratiquer, ce chant choral. La musique peut être aussi une grande facilitatrice quand il s'agit de transmettre des messages, Sophie Janin.
Elle peut l'être parce qu'elle est fédératrice. Triste dans ce sens-là. Et justement, il faut être vigilant par rapport à ces choix musicaux. Et nous, on a des objectifs et des missions qui sont finalement très transparentes, hein, et on doit défendre certains répertoires. On a une vocation laïque. On doit aussi être inclusif. On le doit, et la maîtrise est là aussi pour encourager davantage de mixité dans les formations vocales, et mixité dans le parcours culturel, social, etc.
Et comment pouvez-vous agir à ce niveau-là, au niveau de la mixité ?
Eh bien, ce que nous espérons, c'est que même si notre mission n'est pas de former des futurs chanteurs professionnels premièrement, mais ils ont un baccalauréat général à la sortie, on essaye cependant de les accompagner jusqu'à la fin de leur cursus, donc jusqu'à la fin du baccalauréat, et on espère, on va dire, convaincre certains quand même à rester, en tout cas à éveiller ce goût pour la musique. Et comme nous avons une très grande mixité culturelle, on peut peut-être espérer que dans quelques années, on va plus d'avoir cette mixité-là dans les concours d'entrée, dans les conservatoires supérieurs, dans les chœurs de chant professionnels, dans les jeunes solistes qui démarrent. Et en tout cas, c'est une des choses sur lesquelles il faut se pencher.
La maîtrise de Radio France, Sound the Trumpet, Henri Purcell. C'est votre choix musical, Sophie Janin, vous nous en dites quelques mots.
Oui, écoutez, dans ce temps où on n'a pas seulement célébré, mais au contraire, on est dans des inquiétudes, aussi dans un certain pessimisme, d'entendre ces jeunes voix qui célèbrent avant tout que la musique sonne, que les trompettes jouent, que les hautbois sonnent, ça me réconforte. Et la luminosité de leur voix et leur joie de chanter, ça... Moi, ça me fait du bien.
Et ça nous fait plaisir de partager cela, évidemment, ce matin avec nos auditeurs. Sophie Jeannin, directrice musicale de la maîtrise de Radio France. Alors, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé mercredi soir un reconfinement de 4 semaines pour commencer dans toute la France. Quel sera l'impact de ce confinement sur les activités de la maîtrise? Vous le savez déjà, Sophie Jeannin?
Aujourd'hui, là, avec vous, je peux pas dire exactement qui sera, ce que ce sera l'impact. Nous avons une probabilité de pouvoir maintenir un certain nombre de nos cours parce que les enfants de la maîtrise sont encore scolarisés quand ils sont chez nous. Ils changent pas d'établissement. Voilà. Comme les écoles sont ouvertes, les locaux de la maîtrise sont au sein de ces établissements scolaires. Donc il n'y a pas de changement de lieu pour les enfants. Maintenant, reste à définir comment Radio France va se positionner par rapport à l'activité vocale tout court. Donc là-dessus, nous, bien évidemment, on attend de savoir le protocole exact qu'on va devoir suivre. Mais chez nous, il est vrai que depuis qu'on a pu reprendre nos cours, nous n'avons pas de cluster enclenché. On a quand même pu maintenir nos cours, collectifs d'ailleurs, mais même si c'est en nombre réduit, de chants, de pianos, etc. Ils sont moins nombreux chez nous qu'à l'éducation nationale. Et on respecte de façon extrêmement stricte toutes les règles qui nous sont imposées. Et pour l'instant, on peut dire que ça se passe bien.
Et on espère aussi que cela puisse se maintenir, notamment parce que j'imagine que cela a un impact fort sur le moral des maîtrisiens de pouvoir continuer à chanter, à répéter.
C'est très important pour eux, en effet. Et aussi pour maintenir le niveau artistique de la maîtrise, c'est-à-dire de pouvoir assurer que ces jeunes gens apprennent la polyphonie et de chanter avec d'autres, l'écoute, etc. Mais comme vous dites, d'être en contact tout simplement avec la chose qu'ils aiment au-dessus de tout, c'est-à-dire la musique et la pratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant le premier confinement au printemps, il fallait aussi prendre des mesures pour un peu les rappeler pourquoi ils sont à la maîtrise et les faire revenir à l'essence de leur pratique.
Et effectivement, hein, il y avait eu notamment ces vidéos réalisées à distance par les maîtrisiens avec ce projet, hein, les chants de loin. C'était l'un des projets montés, vous disiez, lors de ce confinement du printemps. C'est une évidence à présent, il faut à nouveau chercher à se réinventer. Est-ce qu'on peut un peu se lasser aussi de chercher ces réinventions au fur et à mesure des confinements?
Je pense qu'au début, quand on avait monté ça, enfin, c'était surtout mon directeur musical adjoint, Morgane Jourdain, qui a porté tout ça. Et c'était, on a vu le bien que ça faisait aux élèves d'avoir un aboutissement, de participer. Maintenant, on va dire les vidéos de confinement, de s'enregistrer séparés chez soi, il me semble que aujourd'hui, on se lasse de ça, non seulement parce que c'est difficile à faire, parce qu'on l'a également fait à l'étranger avec des chanteurs professionnels, mais aussi le public, je crois, a besoin d'autre chose. Donc oui, il faut continuer à se réinventer et avant tout, j'espère, trouver un moyen de pouvoir chanter ensemble en sécurité.
Avez-vous déjà des idées, des projets en tête, Sophie Jeannin?
Oh, on a toujours plein d'idées. On est en train de regarder bien évidemment des répertoires qu'on peut modifier pour être moins nombreux. On a quand même une immense chance à Radio France et c'est que nos élèves ont un aboutissement avec leur pratique grâce à l'antenne. Donc on a une diffusion même si on n'a pas de public physiquement présent dans la salle.
C'est vrai qu'on peut imaginer des captations de concerts diffusées pour nos auditeurs. Quelle est votre vision, alors, Sophie Jeannin, pour l'avenir de la maîtrise, une fois que nous aurons enfin passé cette période difficile?
Alors, c'est en effet difficile de voir plus loin parce qu'on veut pas dédramatiser. Et puis moi, je suis pas non plus scientifique, donc je n'ai pas ces données pour l'avenir. Il me semble que l'art choral, comme on le pratique à la maîtrise de Radio France, est quelque chose tellement fort qu'on survit. Mais ça veut pas dire qu'on se remet pas en question, qu'on se demande pas comment on peut évoluer autrement. Et pour moi, il y a tout simplement de continuer à construire les saisons futures en prenant en compte certaines modifications peut-être, hein, au niveau du nombre, au niveau de la distance, et comment utiliser l'espace autrement, l'espace physique, et en même temps toujours le lien avec l'antenne qui reste pour moi la chose la plus précieuse pour notre maîtrise.
Et parmi les projets à venir dans un futur proche, on ne sait pas encore sous quelle forme, hein, sans public, cela reste encore à être précisé. Il y a ce concert le 8 décembre qu'on espère entendre, bien sûr, concert pionnière autour d'œuvres de compositrices. Ce sera en compagnie du Quatuor Aquilone et puis des concerts de Noël les 18 et 19 décembre à l'Auditorium de Radio France, toujours Casse-Noisette de Tchaïkovski avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Miko Frank aussi. Et puis, chers auditeurs, une jolie idée de cadeau de Noël. On en avait parlé il y a quelques mois déjà à la sortie au printemps dernier de Nous n'irons pas à l'opéra et Aimez-vous Bach avec les voix de nos très chers et de mes très chers compatriotes Charline Van Hoenacker et Alex Vizorek. Il y a donc plein de choses à écouter, à voir et à suivre. On vous tiendra informé bien évidemment des activités de la maîtrise. Merci beaucoup Sophie Janin d'être venue nous voir et on va se quitter avec l'un des chants, l'une des vidéos enregistrées lors du confinement dernier sur un magnifique poème que je ne résiste pas de lire pour vous. De tout, il resta trois choses. La certitude que tout était en train de commencer, la certitude qu'il fallait continuer, la certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. Et c'est un poème signé Fernando Sabino.
La certitude qu'il fallait continuer.
trois choses, une œuvre composée par Pauline Marchand sur un texte de Fernando Sabino, interprété par la maîtrise de Radio France. C'était lors du confinement de printemps. Voilà qui vient terminer cet entretien avec Sophie Janin. Et puis un petit rappel sur cette journée du 2 novembre, lundi prochain. Je vous rappelle que l'ensemble des chaînes de Radio France organisera une journée de solidarité avec l'éducation nationale. Et sur France Musique, Gabriel Oliver Aguillon recevra dans Musique Matin lundi Antoine Gerber de Diabolus in Musica qui avait participé avec Samuel Paty à une action pédagogique à Conflans. C'est donc à suivre dès 7h sur France Musique lundi. Et c'est l'heure de la chronique de notre chroniqueur chéri, Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Eh bien bonjour Saskia.
Un petit clin d'œil aux élections américaines ce matin ?
Comme ça.
De loin.
Oui, de loin. Mais quand même. Aussi, ça se retrouve parce que il s'agit d'un batteur qui s'appelle Tony Williams et qui a fait de la musique politique, mais sans qu'elle y ressemble. On écoute Tony Williams Lifetime. Tony Williams, c'est un batteur, un prodige, un jeune qui a commencé à 8 ans à accompagner son père qui était saxophoniste. Il chante là. C'est rare les batteurs qui chantent. C'est pas un chanteur, mais ce qu'il dit, Where am I going? Où vais-je? D'où viens-je? Where have I come from? Si quelqu'un te demande. If anyone asks me. Me demande. Maintenant je sais. C'est le dernier mouvement d'un long morceau qui est sur l'album Emergency, qui date de 69. Et c'est tout le temps coupé, c'est très organique, ça n'arrête pas de changer. Là, je vous ai pris vraiment la dernière partie qui résume tout le morceau. Et moi, j'adore Tony Williams, vraiment, le Lifetime, son groupe qu'il a fondé en 69, après avoir joué avec Miles Davis. Enfin non, avant avoir joué avec Miles Davis. Et il a beaucoup influencé Miles Davis, il était dans son second quintet. À l'âge de 17 ans, il a tourné dans le monde entier. C'est une grande star du jazz, Tony Williams, mais pas assez connu pour moi. J'écoute son groupe Lifetime depuis longtemps, mais il a quelque chose de différent des autres groupes de jazz rock, jazz fusion qui ont donné les lieutenants de Miles Davis. C'est très âpre, c'est une musique difficile, âpre, mais esthétiquement, plus je la réécoutais pour préparer cette chronique, plus je me dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a influencé, qu'est-ce qu'elle est sauvage et en même temps comme une grosse boule organique qui arrête pas de bouger. J'adore vraiment et je recommence après tant d'années à vraiment l'aimer beaucoup. Il est né en 45, il est mort en 97 à 51 ans, Tony Williams. Il a joué avec Art Blakey, des Jazz Messengers, enfin avec tout le monde en fait, avec tout le monde. Vous pouvez regarder un peu sa vie. C'est un des grands batteurs de jazz. Ce groupe Lifetime, il a quelque chose de très politique parce que c'est pendant la guerre du Vietnam. C'est un groupe où il y a deux noirs, deux blancs. Enfin, au début, il y a Larry Young à l'orgue, John McLaughlin à la guitare et lui, Tony Williams. Et donc, c'est ce que donne ce jazz rock, ce mélange. C'est pas anodin par rapport aux élections. C'est vraiment l'Amérique qui se mélange, quoi, à cet endroit de la musique, vraiment. Et les groupes sont et rock et jazz, toutes les influences. Moi, j'adore ce que dit cette période et ce genre de groupe, la musique qu'ils produisent, quoi. Elle est pas ancrée noire, elle est pas ancrée blanche, elle est les deux, elle est autre chose, quoi. Donc, bon, voilà, il y a le génie de John McLaughlin aussi qui sait faire des solos et en même temps accompagner dans ce groupe. Et puis, l'orgue, il n'y a pas beaucoup d'orgues qui jouent comme ça, d'organistes qui jouent comme Larry Young à cette époque. On va écouter un morceau aussi que j'adore depuis très longtemps, que je réécoute tout le temps, qui a été beaucoup repris et qui dit beaucoup de choses par son titre. There comes a time. Il vient un temps. Où il faut s'échapper de ce qui est, de la politique, tout ça, et il faut se rapprocher de toi, en gros, quoi. Et alors, c'est un morceau, une composition fabuleuse, je trouve, parce que c'est quatre accords. C'est quatre accords, si, si bémol, la, ré, et que des accords mineurs. Et la mélodie qui tient sur trois notes, on écoute There Comes the Time, de 61 aussi. La, ré, si, si. The time to wake up to what's happening. To get out of what's happening. I love you more than what's happening. Je t'aime plus que ce qui se passe. I love you more.
Alors avec mon batteur, on essaye de trouver en combien ça tourne, mais on n'arrive pas à trouver. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je me plante à chaque fois. There comes a time when you're near me.
Quel beau morceau, j'adore.
Magnifique ce morceau.
Ah ouais.
Il dit tellement de choses. What time? Il y a trois notes de mélodie, quoi. C'est fantastique. What time? Allez, rapidement, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est très dur de vous faire écouter comment ce groupe évolue là. Les paroles n'arrivent qu'au bout de 5 minutes. Hein. Donc ça, c'est sur Ego, qui date de 71. Et alors, on a un morceau qui s'appelle Via the Spectrum Road. Je pense qu'il parle de la tournée, d'être en tournée avec ses musiciens. Et c'est un morceau que j'ai vu les critiques de l'époque. C'est un morceau qui est vraiment un symbole du rock anglais, de jazz et de psychédélisme et tout. Et il est en 11-8. Alors moi, c'est la première fois que je comprends qu'il est dans cette mesure. J'ai écouté hier, pour vous dire. On écoute Via the Spectrum Road. Un morceau un peu hippie, mais ça va. Il y a la guitare, si vous écoutez... Il y a une guitare folk et une guitare électrique. We gotta play, nous devons jouer. Ça swing, mais on ne sait pas en combien. When we play, loving each day, on s'aime tous les jours. Hear what we say. Suspension. Oh, c'est magnifique, j'adore.
Ça donne envie de s'accouder à un bar, dans une toute petite salle de concert, d'écouter ça au calme.
Ah, sauf que eux, c'était vraiment énervé. J'ai regardé un live hier sur YouTube, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est une fusion diabolique. Et juste pour finir, pour vous montrer un an avant sa mort ce qu'il écrivait, un vrai exemple de third stream pour le coup, c'est des cordes de l'orchestre et de la batterie. On écoute Wilderness Voyager de 96. Et c'est fantastique. La même personne qui écrit ça.
Oui, là, on est dans toute autre chose.
Oui, mais la batterie, c'est la même. C'est qu'une histoire de forme, en fait. L'orgue et la guitare font ce que faisait l'orchestre.
Merci beaucoup Christophe Chassol de nous avoir fait entendre Tony Williams sur France Musique ce matin. Une chronique à réécouter sur francemusique.fr, à podcaster, à partager, chers auditeurs. On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Christophe, merci à toute l'équipe. Merci à Marie-Ferdinand, David Travailleur, Maël Larfassor, Tahar Bouklifa, Adenino Mello et Dali Yaha. Et puis un gros bisou tout spécial à notre très cher réalisateur David Travailleur qui s'en va voler vers d'autres aventures. Mais avec qui on a toujours autant de plaisir à travailler.
Exactement, merci beaucoup David.
On te souhaite le meilleur, bien évidemment. À suivre, France Musique est à vous avec Gabriel Olivier Aguillon. Chers auditeurs, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.